R22,
tout le
monde,
antenne,
radio,
bois.
Festival Poétesse.
Qu'est-ce qu'une femme poète ?
Histoire, création,
politique.
Alors, on va reprendre donc cette nouvelle demi-journée du colloque. Elle a débuté par une lecture, donc, qui sera la deuxième après l'ouverture du colloque ce matin. Et nous allons entendre Michel Finck, que nous remercions d'être parmi nous. Alors, Michel Finck a publié 5 livres de poèmes, Louis ébloui, Balbuciendo, La troisième main, Connaissance par les larmes, Sur un piano de paille, Variation Goldberg avec cri, aux éditions Voix d'encre pour le premier et Arfouienne pour les suivants. Elle a écrit un livret poème, Poésie chez Résistance, pour l'Opératorio Boulevard de la Dordogne de Gualtiero Dazzi. Elle a publié une vingtaine de livres d'artistes avec Laurie M, Colline Bruges-Renard, Pierre Lehec, Cognam, Giro Cauchy, Caroline François Rubineau. Elle est également co-auteure du scénario et assistante à la réalisation pour le film de Laurie Granier, La momie à Mimo, dans lequel Caroline Carlson tenait le premier rôle. Elle a par ailleurs publié plusieurs essais sur la poésie contemporaine, notamment Yves Bonnefoy, Le simple et le sens, aux éditions Corti, et sur le dialogue entre la poésie européenne et les arts. Poésie et danse à l'époque moderne, corps provisoire, poésie moderne et musique, vorrei et non vorrei, Giacometti et les poètes, si tu veux voir, écoute, épiphanie musicale en poésie moderne de Rilke à Bonnefoy, le musicien penseur. Michel Finck est enfin traductrice, notamment des textes de Georges Trakl, Les chants de l'enténébré. Elle est ancienne élève de l'ENS Ulm-Sèvres et professeure de littérature comparée à l'Université de Strasbourg. Un numéro spécial de la revue Nu est consacré au livre de poèmes de Michel Finck sous la direction de Patrick Ney. Alors, nous allons entendre des textes de Connaissance par les larmes, Poésie chez Résistance, Sur un piano de paille, Variation Goldberg avec cri. Et je laisse la parole donc à Michel Finck.
Est-ce que vous m'entendez là ?
Oui, c'est parfait. Oui.
Avant, il n'y avait pas de micro ?
Non, c'était juste ça qui ne fonctionnait pas, mais là, c'est parfait.
Merci de vous en être rendu compte. Voilà, donc, je vous salue en fait toutes et tous. Et j'étais en train de vous remercier, vous, les organisatrices, de m'avoir invitée pour faire une lecture de poèmes aujourd'hui. En accord avec les enjeux du colloque, j'ai décidé d'articuler ma lecture de poèmes autour d'une question : qu'est-ce qu'être poète femme pour moi aujourd'hui, ici ? Qu'est-ce qu'être poète femme pour moi aujourd'hui, ici ? Alors, en fait, être poète femme, c'est d'abord pour moi une expérience de la solitude profonde. Les repères en poésie ont été longtemps masculins et cela renforce la solitude. Et lorsque j'écris, j'écris dos au mur, face au vide. Mais même dans la solitude, mes poèmes demeurent fondamentalement un acte, un geste vers l'autre. La dimension d'altérité est extrêmement importante. Chaque poème se veut geste de mots vers l'autre. Et c'est pourquoi j'ai souhaité commencer cette lecture de poèmes par un poème justement intitulé « À l'autre », un poème extrait de mon livre « Connaissance par les larmes ». À l'autre, espoir, que chaque poème soit rencontre et que chaque rencontre soit poème. Mais tant de fois, rencontre n'est pas poème et poème n'est pas rencontre. Comment vivre ? Le manque et la brûlure ou se tenir debout. Plus que l'achever, aime l'ébauche légère, le mot maladroit, gauche qui tremble dans la main, coupé, tendu, moignon d'amour, vert. Être poète femme, c'est ensuite pour moi travailler, retravailler les mythes qui sont souvent des œuvres d'auteurs masculins. Par exemple, j'ai retravaillé le mythe de Philomèle. Philomèle, vous le savez, est une femme qui écrit langue coupée par son beau-frère Térée, qui l'a violée et qui, après l'avoir violée, lui a coupé la langue pour qu'elle ne puisse plus parler. Mais Philomèle a eu la belle idée de raconter malgré tout son histoire en faisant une tapisserie. À la langue coupée de Philomèle, écrire avec dans la bouche suturée les restes de la langue de Philomèle, moignon d'étoiles filantes dans la gorge. Qui l'a tranché, la langue de Philomèle, demande l'enfant. Qui l'a tranché, la langue de Lavinia, demande l'enfant. L'immense langue des suicidés pendus. Qui l'a tranché pour qu'elle soit rossignol? Finis ta tapisserie de larmes, dit la mère. Finis ta tapisserie de mots, dit le père. Sinon, le rossignol saignera noir dans la terre rêche. Donc, être poète femme, pour moi, c'est retravailler les mythes, c'est parfois aller jusqu'à les déconstruire. C'est ainsi que j'ai essayé de déconstruire le mythe d'Orphée. Et j'ai fait d'Orphée une femme et d'Eurydice un homme. Eurydice, homme, est aux enfers d'un hôpital psychiatrique et Orphée, femme, descend aux enfers de cet hôpital psychiatrique pour retrouver Eurydice et le faire remonter jusqu'au monde des vivants. Ce poème est toujours extrait de Connaissance par les larmes. C'est cette fois un poème en prose. Elle, Orphée, est descendue catabase dans la nuit cosmique pour chercher Eurydice. Elle l'a retrouvée aux enfers des hôpitaux psychiatriques. Eurydice fou est debout sur un sommier de lit, crâne hagard, étiré démesurément par la souffrance. Somnambule, faisant avec les bras les gestes de la nage, scandant ta voix sourde. Si tu veux me retrouver, Orphée, nage avec moi dans le liquide amniotique des morts. Lorsque Eurydice ne nageait pas, il mettait ses doigts dans la bouche de ses compagnons d'hôpitaux, les permanents, les vieux, les étrangers, qui bavaient de douleur. Pour les soigner, disait-il, par ses pouvoirs thaumaturgiques acquis au royaume des morts, où il forge l'anneau rédempteur. De ses larmes silencieuses, Orphée lavait le corps brûlé de songes d'Eurydice, essayait de l'enlacer, le supplier de revenir vers elle, parmi les visages des vivants, en vain. C'est enfin retourné, Orphée, pour laisser partir Eurydice. Elle comprend, longue décharge électrique de toute la chair, qu'Eurydice ne veut pas être ramené vers la communauté des hommes. Il se préfère fou, dansant la capucine parmi les ombres, plus libre avec les morts. Elle est remontée des enfers, Orphée. Voix obsédante laboure l'intérieur de sa tête. Qu'as-tu fait de ton frère? Elle ne sait plus marcher sur terre. Boite, trébuche, tombe, jambe gauche rongée de douleur, est toujours déjà morte en Eurydice. Une jambe dans l'obscur, l'autre dans la lumière. Orphée a désormais pour seul compagnon un piano peint autrefois par Eurydice, qui en a cassé les cordes, piane Orphée. Orphée ne pleure plus, a perdu les larmes avec Eurydice. Mais piane Orphée pleure. Ce sont ces larmes de l'oreille que vous entendez ici. Orphée dédie ses compositions au muet qui, nimbé de larmes, devenus anonymes dans tous les hôpitaux psychiatriques du monde, tiennent serrés dans leurs mains qui crient la main d'Eurydice perdue. Être poète femme, c'est encore pour moi être la sœur de poètes femmes qui m'ont précédée, qui m'ont bouleversée et auxquelles je souhaite rendre hommage dans de nombreux poèmes. Pour les poètes femmes qui m'ont le plus inspirée dans mes poèmes, je citerai surtout les femmes russes du XXe siècle, Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova. D'ailleurs, Anna Akhmatova n'aimait pas du tout le mot poétesse et je ne l'aime pas non plus. Je vais vous lire maintenant un poème dédié à une œuvre du compositeur russe Shostakovich qui a mis en musique justement les poèmes de Marina Tsvetaeva. Toujours dans connaissance par les larmes. Shostakovich, six poèmes de Marina Tsvetaeva. O musa placha, prekrasnichaya iz muz. O muse des larmes, la plus belle des muses. Fêlure ventrale dans le contralto rayonne. Mes sœurs d'âme et d'os, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, larmes âcres, mat, rythmiques, larmes et baves, ancestrales, cérébrales, mortes et vivantes à la fois celles qui chantent, un seul son pour dire flamme et cendre, brûlure du feu et du froid, leur arc-en-ciel, quand les cloches crâniennes creusent le silence de Dieu. Je vais maintenant vous lire un poème qui est dédié à quatre poètes femmes qui m'ont beaucoup inspirée et qui se sont toutes les quatre suicidées. Ce poème se trouve dans mon livre « Sur un piano de paille ». Le poème est intitulé « Cri femme ». Cri femme, Marina Tsvetaeva, suicidée par pendaison, le 31 août 1941, à l'âge de 49 ans, à Elabouga, en Tatarie. Sylvia Place, suicidée au gaz, le 11 février 1963, à l'âge de 31 ans, à Primrose Hill, Londres, après avoir pris soin de ses enfants. Alejandra Pizarnik, suicidée par ingestion de psychotropes à l'âge de 36 ans, le 25 septembre 1972, lors d'une permission de l'hôpital psychiatrique Pirovano à Buenos Aires. Amelia Rosselli, suicidée en se jetant du haut de sa mansarde Via Corallo, à Rome, à l'âge de 66 ans, le 11 février 1996, jour pour jour, 33 ans après le suicide de Sylvia Plath, qu'elle a traduite. Tsvetaeva, Plath, Pizarnik, Rosselli, destin, poésie, chaque larme de votre corps, poésie, le monde injuste vous connaît plus pour vos suicides que pour vos œuvres-vie. Je vous porte toutes dans le ventre de mon poème. Votre danse de mort, me féconde. Je suis Madeleine à la bougie et vous êtes les crânes que je contemple. J'écris, main posée sur vos crânes. Wie lange noch? Donc, je disais qu'être poète femme, c'est être en dialogue constant avec d'autres poètes femmes qui m'ont inspirée, mais c'est aussi être en dialogue constant avec des artistes femmes qui, elles aussi, m'ont inspirée. Dans mes poèmes, le dialogue avec les artistes et surtout les artistes femmes est très important. Je vais vous lire maintenant un poème dédié à l'artiste mexicaine Frida Kahlo, qui m'a beaucoup inspirée. Toujours dans Connaissance par les larmes. Frida Kahlo, autoportrait à la colonne cassée. Musée Guggenheim, femme fendue en son milieu, faille centrale dans l'os. À la place de la colonne vertébrale, une colonne antique brisée, corset de fer, soutien, emprisonne le corps nu, les seins découverts, neige, offert, composition en croix et 56 clous enfoncés dans la peau et l'os, crucifixion d'une femme, clous plus gros à l'endroit du cœur, hurlant à jamais l'accident du tramway et les trahisons de Diego, sourcils épais, foncés, froncés, surplombent le regard, extra lucide. Et tes larmes, chère Frida, coulent le long de tes joues, parmi les clous, comme des cicatrices ouvertes sur la vérité de la vie, la douleur, dure, claire, partageable. Et encore, toujours dans cette idée de l'importance du dialogue avec les artistes femmes, je vais vous lire maintenant un poème inédit dédié à la chorégraphe Pina Bausch, qui m'a beaucoup inspirée. Chaque geste dansé de Pina Bausch est pour moi un poème. En fait, c'est un extrait que je vais vous lire parce que le poème inédit est très long. À Pina, Pina, chiromancienne des corps, apprend à la poésie, apprend à ne pas dire, à laisser deviner, à chercher sous le dire, contre le dire, deviner à contre-mots. Mots doivent suer, transpirer le sens comme corps. Mots doivent tomber comme corps. Mots doivent se rouler dans terre comme corps, dans terre. Mots enfin sans tête, mots enfin sans yeux, aveugles, livrés à l'inconnu des sons, des rythmes du corps. Fièvre de mots, délivrés du corbillard de la langue. Concepts émasculés, décapités, tombés en catalepsie. Mots entrailles, mots atterrés, macérés dans sang. Gicle la vie, la mort, gicle l'inouï, mot ovule or. Être poète femme, c'est aussi et peut-être surtout pour moi un engagement politique. C'est ainsi que dans mon livre Poésie chez Résistance, fragments pour voix, je me suis faite la porte-parole d'une réfugiée syrienne en France qui a été mon étudiante à l'université de Strasbourg. Je me suis faite son scribe, je lui ai donné un pseudonyme, Chéé, qui est le nom mutilé, amputé de Scheherazade, et ce n'est qu'à la fin du livre que Scheher retrouve son nom entier de Scheherazade et qu'elle devient celle qu'elle est, Scheherazade, celle qui résiste par les mots. Ce livre est donc une libre réécriture du mythe de Scheherazade. Ce livre n'est pas seulement un livre, il est aussi un livret, puisqu'il a été mis en musique par le compositeur italien Gualtiero Dazzi, qui en a fait un operatorio d'environ 1h50, dans lequel je lis moi-même en voix off certains fragments du livre. Je vais vous lire quelques petits extraits maintenant. Et tout d'abord, un extrait du fragment 13 de ce livre « Poésie chez Résistance ». Sifflement de vent dans les oreilles du cœur, sifflement dans le crâne, je pense, chez tu as été mon étudiante et je serai ton scribe, articulerai ton épopée de réfugiée syrienne en France, chez or, chez décidant de lutter contre la guerre en faisant un master de lettres françaises, écrirai poésie, mais faudra écrire presque sans image, pas beauté, sans image, juste le rythme, le nu du rythme, l'os du rythme, le blanc entre les mots, le silence. Faudra écrire poème, voix, syncopé, pulsar. Faudra sans relâche heurter le macadam de l'histoire par pulsar la poésie, heurter la poésie, court-circuit, heurter langue accrue, poésie, lanceuse d'alerte. Et encore un fragment de ce même livre Poésie chez Résistance. Chez ton nom et résistance, chez mon nom et résistance, chez sœur humaine, des fils invisibles nous relient que rien ne pourra trancher. Suis étrangère sur cette terre, étrangère comme toi dans la poussière. Chez, ose, chez, ose, destin, chez, va vers ton nom, apprends aux hommes, apprends ta comptine de Scheherazade, viatique vocale qui sauve en temps de détresse. Apprends ta comptine à l'ange de l'histoire, sois voix debout, voix suspendue, cri à contre-mort, à contre-terreur, seul sauf conduit. La poésie, c'est ce qui résiste. Urgence chez urgence, poésie chez résistance. Et pour insister encore sur cette dimension fondamentale pour moi de la résistance en poésie comme poète femme, je vais vous lire un autre poème qui est intitulé justement « À la résistance » d'un autre livre, « Connaissance par les larmes ». Et c'est un poème, cette fois, dédié à Anna Politkovskaya, qui est une journaliste russe, militante des droits de l'homme, qui a été assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. À la résistance, à Anna Politkovskaya, profession, journaliste, vocation, vérité, cadavre découvert dans la cage d'escalier, pistolet et 4 balles aux côtés vocation, vérité, à sa tombe couverte de neige et de silence, à sa langue coupée, à sa langue dans ma bouche, vocation, vérité, aux langues de toutes, dans sa bouche, dans la mienne, à Anna, muse des larmes, la plus belle des muses, et moi, pouvant à peine marcher, marchant vers elle pour des millénaires, marchant sans jambes, elle et moi, vers la lumière, assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou. A-t-elle eu le temps de respirer la dernière rose d'été? La poésie, c'est un bruit de glaçons écrasés, un sifflement. À Anna Politkovskaya, vocation, vérité, aux larmes de toutes, dans le bûcher lucide de son œil, dans le mien, envers et contre tout, poésie, résistance. Voilà, et pour finir, je souhaite vous lire un poème qui condense, me semble-t-il, mon art poétique de poète femme. C'est toujours un poème de connaissance par les larmes et il a pour titre « À la torsion ». À la torsion, corps à corps avec les mots, jusqu'à ce qu'ils se tordent. Défier les mots jusqu'à ce que leur torsion et contre-torsion d'efface ce nœud coulant, la vie, se confier aux morses de l'os, le faire crier, choc et spasme dans la glotte, bave les larmes par torsion de langue. Puis, légère, oublier la torsion, planer hors la langue. Poème, terrier des larmes de toutes. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage de ces textes et pour cette lecture. Et on entend très bien, je trouve, dans vos textes et dans la manière dont vous décrivez votre travail. Une chose qui est un petit peu caractéristique à la fois de votre poésie, de ce qu'on a dit aussi ce matin, plus généralement, à propos de la poésie écrite par des femmes, qui est cette intermédialité, quoi, le dialogue, en tout cas le fait que c'est un espace de dialogue avec d'autres disciplines, d'autres pratiques artistiques, etc. Et c'est un aspect qui se lie aussi à la dimension de lutte et de résistance un petit peu de la poésie que vous avez évoquée, notamment à propos de ce personnage de Chez. Je pense qu'on va devoir passer au panel suivant et s'arrêter là pour la discussion qu'on aura certainement l'occasion de prolonger un petit peu plus avant dans le colloque, je n'en doute pas. Mais merci beaucoup pour cette lecture.
Merci beaucoup à vous. Je tiens absolument à vous remercier toutes pour ce travail magnifique.
Merci à vous pour votre présence et je passe la parole à Lénaïque Cariou, donc pour le panel Faire École.